Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à l'affaire Sacco et Vanzetti et à l'anarchisme italo-états-unien à l'occasion du 90e anniversaire, triste anniversaire, de l'exécution de Sacco et Vanzetti, qui sont donc deux anarcho-syndicalistes italiens aux États-Unis, immigrés, qui ont été tués donc. En août 1927. Alors pour parler de cette affaire Sacco-Vanzetti et de ce qui la précède, c'est-à-dire le milieu remuant de l'anarchisme italo-états-unien, nous sommes avec Ronald Créag, professeur de civilisation américaine à l'université de Montpellier, auteur sur ce sujet de Sacco et Vanzetti, aux éditions La Découverte, qui est un très bon ouvrage qui aborde une partie de ce qu'on va dire aujourd'hui, qui est beaucoup plus dense, qui revient très précisément sur l'affaire, qui revient précisément sur la vie de Sacco et Vanzetti. On parlera pas trop de ces deux aspects, donc on va dire des événements qui ont conduit à l'affaire, des histoires de braquage et tout ça. Et on parlera pas trop non plus de la vie de Sacco et Vanzetti, ou seulement pour illustrer le phénomène de l'immigration italienne qui va créer le milieu anarchiste dont on va parler à l'instant. Le livre est très très intéressant, très bien écrit, donc on invite les gens qui veulent en savoir plus après cette émission à s'y reporter. Donc il est également auteur de nombreux ouvrages sur l'anarchisme aux États-Unis, donc qu'on mettra donc en référence sur le site sortirducapitalisme.fr. Donc bonjour Ronald.
Bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs.
Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette immigration italienne qui arrive à partir des années 1880 massivement aux États-Unis et qui va créer ce milieu incroyable politiquement de l'anarchisme italo-états-unien et qui va produire Sacco et Vanzetti, mais qui va aussi produire celui qui va assassiner le roi d'Italie. Donc c'est vraiment un milieu vraiment incroyable.
Oui, et bien si tu veux, on va commencer par l'histoire de Rosina Zampelli, une petite fille de 11 ans, qui est amenée en bateau d'Italie, juste pour retrouver ses parents, qui l'ont laissée depuis qu'elle était bébé chez des bonnes sœurs en Italie, et qui va donc arriver dans l'État du Massachusetts, dans un petit quartier italien, à sa grande surprise, où elle ne va pas être trop étonnée parce qu'il n'y a que des Italiens tout autour d'elle. Toute la communauté là est italienne, et pas seulement elle est italienne, mais elle est toute de la même région qu'elle. Elle a 11 ans à peine, sa mère est couturière, donc elle va tout de suite être en contact aussi avec beaucoup de gens, parce qu'en général les filles n'ont pas tellement de contacts. Et puis ce qui va se passer, c'est qu'à 16-17 ans, elle va découvrir au bal son amoureux avec qui elle va se marier et qui s'appelle Sacco. Ils vont se marier malgré l'opposition du père parce que Sacco est un anarchiste plus ou moins. En tout cas, il a des idées vraiment anticléricales, il est athée, ça le choque beaucoup, mais bon, elle y tient, et puis voilà, ils vont se marier. Et là, elle va quand même découvrir tout d'un coup beaucoup de choses. D'abord, elle va s'apercevoir que tout le monde ouvrier aux États-Unis, pratiquement, eh bien, ce sont des immigrants. Depuis 30 ans, déjà, où elle était avant elle, depuis les années, depuis pratiquement même la guerre de sécession, depuis 1870, il y a eu d'abord une grande immigration allemande, puis il y a eu des immigrations d'Irlandais, d'Europe centrale, et là, quand elle est arrivée, il commençait à y avoir aussi des immigrations, justement, des pays de l'Est, de l'Europe. Ils ont leur propre syndicat, dans leur langue, c'est-à-dire que si tu es juif, tu seras recruté dans un syndicat juif. Si tu es allemand, tu seras indiqué dans un syndicat allemand, et ainsi de suite. Donc il y a une grande solidarité sur un plan national, et aussi sur un plan idéologique, plus ou moins. Alors avec Sacco, ils vont quand même commencer à recevoir des journaux, et il va se créer un club socialiste d'abord, et puis ensuite un club anarchiste où Sacco va être actif parce qu'il sent qu'il est avec des copains qui sont plus ou moins des voisins d'ailleurs, avec qui il se sent beaucoup plus à l'aise. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du théâtre. Ils vont faire du théâtre pour ramasser de l'argent, pour pouvoir aider les grévistes et autres choses comme ça. Et il va justement se trouver que à ce moment-là, bon, Sacco est encore très jeune. Quand il est arrivé aux États-Unis, il avait eu aussi 17 ans seulement. Et il est travaillé comme fraiseur dans la chaussure. Ils vont avoir bientôt un premier bébé. Quand ils sortent ensemble, c'est lui qui porte le bébé dans ses bras, ce qui est très rare à l'époque où les Italiens sont encore assez machos. Et puis, il va y avoir à ce moment-là des grèves. Il y a d'abord une première grève à Lawrence, dans le Massachusetts. Et à l'occasion de cette grève, Sacco va s'engager pour envoyer de l'argent, pour participer aussi à la grève. Et ensuite, il va donc rencontrer, comme ça, avec des camarades italiens. Il a créé donc ce cercle d'études sociales, qui est un groupe anarchiste, dans lequel il va découvrir un milieu nouveau pour lui, des individus qui s'appellent Carlo Tresca, qui est une grande figure dans le mouvement ouvrier, parce que c'est un tribun remarquable. Il faut dire qu'à l'époque, où il n'y avait pas des haut-parleurs, et où il n'y avait pas de salles, parce qu'elles étaient toujours fermées pour les anarchistes, et pour le monde ouvrier d'ailleurs en général, il fallait parler en plein air. Donc il fallait des gens qui aient une voix très forte, des tribuns, et l'anarchiste a disposé de tribuns de très très grande qualité. Il y avait l'anarchiste allemand Jean Most, dont un des disciples disait, il nous aurait dit d'aller nous jeter tous ensemble dans le fleuve, on l'aurait fait. Il allait y avoir Emma Goldman, un peu à la même époque aussi. C'est en 1912 qu'il y a la grève de Massachusetts. C'est une ville qui compte en majorité un personnel féminin. Et c'est une entreprise, c'est le patronat du textile qui est là. Les conditions de travail, il faut savoir pourquoi on se met en grève, parce qu'on dit toujours une grève, mais on ne dit pas pourquoi. Les machines vibraient si fort qu'il fallait les mettre au rez-de-chaussée de l'usine. Elles étaient tellement bruyantes et la salle en contenait des centaines. Le rythme du travail fut doublé avec les machines, chaque personne devant manipuler deux machines à la fois. Les opérations étaient répétitives, les manœuvres dangereuses. On en venait presque à regretter le temps où les ouvrières des anciennes machines travaillaient 16 métiers à la fois. En moyenne, celles qui réussissaient à conserver leur emploi gagnaient 16 cents de l'heure. Les conditions de logement étaient épouvantables. Beaucoup de familles partageaient le même appartement dans des bâtiments insalubres où les maladies contagieuses proliféraient. La mortalité infantile était énorme parce que les femmes partaient au travail avec leur mari pour gagner un peu plus et les bébés mouraient de faim. En 1912, une loi du Massachusetts décida de réduire la semaine à 54 heures. Dans une des filatures à Lawrence, les ouvriers découvrirent qu'on allait supprimer le salaire des 2 heures qu'il y avait en plus. Et donc une grève éclata. La police, évidemment, tout de suite interdit les manifestations, multiplia les amendes et les arrestations. Et c'est dans ce cas-là que la grève arriva. avec un journal en particulier qui était lancé par les anarchistes italiens en langue italienne et qui s'appelait Il Proletario. Donc il participa à la collecte d'argent au profit des grévistes, qui évidemment ne touchaient plus rien. Il fallait payer aussi les avocats de ceux qui avaient été arrêtés. Et peut-être à l'occasion de cette grève, il a rencontré peut-être un certain Bartolomeo Vanzetti. Sans aucun doute, il était en train de se radicaliser. Il faut dire qu'il y a ensuite une grève également dans la ville de Milford où lui-même se trouvait, et que donc là aussi, il a participé, bien entendu, et il a commencé à se faire remarquer. Il faut voir que dans le New Jersey, qui n'est pas très loin de l'État de Massachusetts, il y avait aussi une importante communauté italo-américaine d'environ 5000 membres, parce qu'il y avait eu quand même par centaines de milliers, chaque année, des Italiens qui partaient pour les États-Unis, Italiens du Nord, Italiens du Sud. Sacco était du Sud, il faut dire d'ailleurs que Vanzetti, lui, était du Nord. Donc, il y avait à peu près 5000 membres à Patterson, dont au moins un millier d'anarchistes. Parmi ceux-ci, il y avait un tisserand qui s'appelait Gaetano Bresci, qui a pris la nouvelle, n'est-ce pas, qui s'était passé de ce qui s'était passé en Italie. Il y avait eu des grèves dans la population qui était dans la famine, et un général avait tiré à coups de canon sur la population qui était tout à fait pacifique. Et pour féliciter le général, le roi le décora. Bresci, donc Gaetano Bresci, qui était parmi les Italiens de Patterson, était tellement outré de cela que sans rien dire ni à sa fiancée ni aux autres anarchistes, il part en Italie, il assassine le roi.
Umberto Ier.
Le roi Umberto Ier. Et donc le 29 juillet, il braqua son revolver sur le monarque, tira 4 coups de feu, il fut arrêté et emprisonné. Il devait mourir en prison moins d'un an après, et on ne sut jamais s'il s'était suicidé ou si on l'avait exécuté.
Donc là, c'est 1900.
Ça, c'est en 1900. Alors, les anarchistes de Patterson organisèrent des collectes pour aider sa veuve et ses deux enfants. La police s'efforça de les empêcher de lancer des soirées de bienfaisance, mais ils réussirent quand même à recueillir des milliers de dollars. Ce qui est bien la preuve que les anarchistes italo-américains ne se réduisaient pas à une poignée de rebelles indisciplinés, intolérants et amers, comme on les décrit trop souvent. Il y avait une véritable solidarité, malgré des conditions de vie misérables, parce que les sommes qu'ils donnaient, ça allait peut-être à 1 dollar au moins, ou 2-3 dollars au maximum. Donc pour avoir réuni des milliers de dollars, c'est dire quand même qu'il y a eu une énorme solidarité. Donc ils s'étaient lancés dans des courants anarchistes qui étaient quand même très importants, et en particulier un courant qui était très influencé par un Italien qui s'appelait Luigi Galeani. Alors Luigi Galeani, qui avait connu Élisée Reclus jadis quand il était plus jeune, qui avait été déjà expulsé de beaucoup de pays, était un anarchiste qui préconisait l'insurrection et qui préconisait ce qu'on appelait la propagande par le fait. C'est-à-dire pour lui, la propagande par le fait, ce n'était pas simplement des actes d'action directe, mais c'était vraiment de donner l'exemple de la révolte par la dynamite, par des moyens divers, de telle sorte que ça amène la population à se révolter. Alors il faut dire une chose aussi, n'est-ce pas, c'est que nous sommes dans un climat totalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Il faut savoir quand même que les années 1900 à 1920 ont été des années extrêmement révolutionnaires, de 1880 à 1920. Il faut se rappeler quand même qu'en France aussi, il y avait des attentats de Ravachol, par exemple, qui étaient célébrés par les artistes, par les poètes et par les musiciens, les peintres. Il y avait tout un groupe de peintres très proches du mouvement anarchiste aussi, qui d'ailleurs envoyaient des illustrations aux journaux anarchistes. Donc, autrement dit, même des écrivains de littérature, Zola, etc., qui racontaient tout ce qui était en train de se passer. Et beaucoup, beaucoup de monde, finalement, quand même, devenait de plus en plus critique par rapport à l'État, en France en particulier, ce qui s'est passé. Il y a eu l'affaire Dreyfus, et il faut se rendre compte quand même que l'affaire Dreyfus s'attaquait le summum même de l'État, la quintessence de l'État, c'est-à-dire l'armée française, n'est-ce pas ? C'était quand même... Et quand on voit que, bon, le nombre de monde, y compris dans les milieux de, bien nantis, qui prennent la défense de Dreyfus, et puis évidemment bon, les anarchistes aussi, un peu tardivement, mais quand même très intensément, on se rend compte qu'il y a un climat très proche de la révolution, que nous allons avoir d'ailleurs, et ce ne sera pas un hasard, une série de révolutions. Il y a d'abord la révolution au Mexique, avec des anarchistes aussi qui sont là-bas, et y compris des anarchistes italiens, anglais, américains, etc. Mais ça, c'est une autre histoire dont on ne peut pas parler aujourd'hui. Et il va y avoir ensuite toutes les séries de mouvements révolutionnaires. Bon, il y a eu la Commune de Paris en France, n'est-ce pas, avant, en 70-71. Et puis il va y avoir les mouvements, les communes de Berlin, les communes d'un grand nombre de villes, et puis en Italie aussi, à Milan, ce qu'on va appeler les années rouges en 1920-1921. Donc nous sommes vraiment dans un climat qui est assez extraordinaire, exceptionnel.
Oui, justement, puisqu'on parle de toute cette agitation, je pense que c'est important de revenir un peu en arrière sur toute l'agitation qui s'est passée aux États-Unis. On a déjà parlé de plusieurs événements, mais on pourrait peut-être repartir de l'explosion de Haymarket, qui est quand même en 1886, qui est l'origine du 1er mai, encore aujourd'hui, et qui est du coup un attentat qui a attribué à des anarchistes et qui marque un peu le début de la période dont j'aimerais que tu parles, c'est-à-dire de toute cette période d'effervescence de l'anarchisme italo-états-unien et qui va se terminer d'une certaine façon avec l'affaire Sacco et Vanzetti et l'énorme répression de l'anarchisme états-unien après la Première Guerre mondiale. Bon, déjà une première fois dans les années 1900, mais est-ce que tu peux me parler de tout ça ?
Alors oui, il faut dire, n'est-ce pas, que l'événement de Haymarket est un événement très très important qui a été suivi dans le monde entier, avec retard bien sûr, puisqu'il n'y avait pas la radio, mais la presse ouvrière qui existait dans beaucoup de pays suivait cela de très près. Ce sont des anarchistes qui ont été arrêtés à la suite d'une manifestation où une bombe a été lancée, pensant par probablement un provocateur, où il y a eu un certain nombre de morts, y compris par la police, parce qu'ils se sont tirés dans la panique les uns sur les autres. Et on a arrêté des anarchistes qui avaient organisé la manifestation, y compris des anarchistes qui n'étaient même pas là, et ils ont été condamnés à mort. Donc on n'a jamais trouvé depuis qui a lancé la bombe, et ils ont été exécutés après une année de procès, d'emprisonnement, etc. Et ça a été un tel choc dans le mouvement ouvrier que tous les ans, la date du 1er mai a été retenue pour célébrer cette révolte anarchiste et ouvrière à une époque où l'anarchisme était encore assez lié aussi avec le courant socialiste. Le marxisme n'existait pas encore vraiment en réalité à l'époque aux États-Unis, il n'était pas très connu. Le Marx n'avait pas été traduit encore ni rien. Donc nous avons là un milieu, mais c'est essentiellement le milieu allemand, le milieu anarchiste allemand, qui va progressivement s'intégrer à la population, s'américaniser, et donc devenir plus ou moins conservateur. L'immigration italienne, c'est une immigration nouvelle quand même malgré tout, mais il y a les transmissions qui sont faites progressivement, parce que bon, on continue à célébrer. Il faut voir aussi que les mouvements ouvriers, là, enfin, les anarchistes ont chacun leur tradition, chaque pays a sa tradition. C'est-à-dire que, par exemple, les Italiens se réunissent toujours, se retrouvent toujours là dans des bars où on vient chercher pour les gens pour le travail, puisque ce sont des travailleurs saisonniers, et où on trouve aussi les prostituées. Les Allemands, eux, se retrouvent plutôt dans des restaurants où on va en famille, où on fait des concerts aussi, il y a des chorales allemandes, et où, dans les années 80, justement, les ouvriers anarchistes ont commencé à avoir des exercices de tir pour pouvoir se préparer à la lutte armée contre le capital. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'aux États-Unis aussi, il y a les polices privées qui sont armées et qui, dans les grèves, comme dans la grève qu'on va avoir plus tard à Ludlow et ailleurs, vont tirer sur la foule, vont brûler des tentes où se trouvent des femmes et des enfants, sans aucun scrupule. Donc, les ouvriers disent, il n'y a pas de raison que nous, on n'ait pas aussi nos propres milices qui vont défiler le 1er mai. Évidemment, elles vont être interdites par le gouvernement, alors qu'il va autoriser les milices du patronat.
Comme la fameuse agence Pinkerton.
Voilà, l'agence qui... Pinkerton en particulier, bien connue, hélas. Donc, nous avons là... et alors, les Français, eux, par contre, ils se retrouvent dans des hôtels où il y a des bons repas et où ils font évidemment un grand banquet. C'est la grande tradition française du repas, n'est-ce pas? Donc on a vraiment des coutumes très différentes selon les milieux ouvriers. Et c'est comme ça aussi que se transmettent toutes les cultures, etc. Donc le mouvement italien est beaucoup plus marqué par les idées de Galliani, qui lui est hostile au syndicat. Est hostile à l'organisation, non pas pour le groupe. C'est-à-dire qu'il pense qu'il faut beaucoup mieux discuter de quelque chose dans un pique-nique parce qu'il n'y a pas la rigidité de l'organisation. Il n'est pas contre la collectivité, il est contre les organisations justement instituées parce qu'il trouve que ça paralyse tout. Et Sacco et Vanzetti seront hostiles aussi, malgré tout, aux syndicats également dans la même lignée que. Et ils seront dans des groupes qui vont probablement avoir aussi beaucoup d'attentats également. Mais il faut dire que beaucoup d'attentats, on n'a jamais su qui les avait lancés. Donc, nous allons avoir ensuite aux États-Unis l'attentat qui va avoir lieu contre le président des États-Unis en 1901 par Czolgosz, qui est quelqu'un, un Polonais que personne ne connaît, qui va voir Emma Goldman et les anarchistes qui vont dire « là, mais ça c'est un espion de la police ». Il y va même y avoir des articles dans la presse pour dire « méfiez-vous de lui », enfin dans la presse anarchiste. Mais quand il va être interrogé, il va dire qu'il est anarchiste. Et donc on va en profiter pour faire des lois anti-anarchistes aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il est interdit même d'avoir des idées anarchistes. C'est pas pour une démocratie, c'est magnifique.
Mmh, effectivement.
Et donc... les lois vont évidemment être appliquées, en particulier pour empêcher les gens qui viennent aux États-Unis s'ils ont des idées anarchistes, n'est-ce pas?
Puis c'est l'Immigration Act de 1903.
Voilà. Voilà.
Les anarchistes italiens sont interdits d'entrer dans le pays.
Voilà. Bon. Ils entrent quand même, parce qu'il y a beaucoup de moyens d'entrer dans le pays. Moi, j'en ai connu des certains qui étaient là depuis 50 ans et qui étaient totalement inconnus des autorités et qui étaient des illégaux. Il faut voir que, en fait, l'important mouvement qui va se passer, enfin, une grande transition qui va se passer, c'est que bon, donc nous avons, au début du siècle, une énorme immigration, en particulier des milieux yiddish, juifs des pays de l'Est, qui fuient les pogroms qui sont là, qui vont organiser de très importants syndicats ouvriers. En particulier dans le textile, des syndicats de femmes, essentiellement. Donc il y a un milieu féminin très très actif aussi, très volontaire et très important. Et puis voilà que les États-Unis, la guerre éclate, la guerre de 14-18, et que les États-Unis vont décider la mobilisation, ce qui va amener Emma Goldman et d'autres à pousser, évidemment, à déserter, à éviter la guerre, etc. Alors il va se passer une chose qui s'est passée également d'ailleurs en 1939 en Angleterre, c'est que les anarchistes qui appellent à déserter, on ne va pas les poursuivre pendant la guerre. On va attendre la fin de la guerre pour le faire et pour les interdire. Et donc, à la fin de la guerre de 14-18, les Américains vont à ce moment-là avoir ce qu'on appelle les années rouges, et vont embarquer des centaines et des centaines de gens, y compris Emma Goldman et d'autres meneurs, et les envoyer vers l'Union soviétique. Mais il faut dire que la révolution russe a été l'occasion pour les États-Unis d'avoir un petit peu un coup de froid, parce que malgré tout, ils sont triomphants, n'est-ce pas, de la guerre de 14-18, ils apparaissent évidemment comme le jeune frère, avec toute la jeunesse d'un peuple jeune par rapport à la vieille Europe. C'est eux qui ont contribué à la victoire finale, donc ils sont vraiment bien vus des États de toute l'Europe, dans toute l'Europe de l'Ouest. Et voilà tout d'un coup qu'il y a la révolution soviétique, qu'il y a Lénine qui envoie un message aux ouvriers américains pour leur dire « révoltez-vous ». Et bon, bien sûr, l'Union soviétique est quand même très loin des États-Unis, encore qu'il y a l'Alaska qui n'est pas si loin que ça. Et donc Wilson, pour contrer tout ça, va créer la Société des Nations Unies pour écarter l'Union soviétique. Et donc, tout ça rentre un peu, non pas seulement en vue d'une politique locale pour défendre le patronat, mais aussi dans une politique internationale, un aspect de géopolitique. Alors, ils vont ramasser, alors il va y avoir, avec les Pinkerton, des polices privées, même des volontaires, ils vont faire des grandes rafles de milliers de personnes simultanément le même jour dans l'ensemble des États-Unis. Ils vont arrêter des millions de personnes, des milliers de personnes. Et puis ensuite, ils vont exposer le résultat, c'est-à-dire, je crois, 2 ou 3 revolvers, point final. C'est tout ce qu'ils ont pu trouver comme truc subversif. Mais ils vont présenter ça comme une grande victoire par rapport à ça. Bon, Emma Goldman, donc, et bon, un certain nombre d'autres dirigeants sont été expulsés. Galliani aussi a été expulsé déjà un peu plus tôt. Et donc, le mouvement anarchiste se trouve maintenant devant ses propres forces, les gens qui sont là, sur place, et c'est là que vont se dérouler les événements qui vont déclencher l'affaire Sacco et Vanzetti, c'est-à-dire 2 événements en particulier. Un hold-up raté dans le Massachusetts d'un camion qui contenait de l'argent. Il y a un fourgon donc avec de l'argent qui est attaqué par une voiture, mais il y a une trame qui vient et le camion profite pour s'en aller et donc le hold-up est raté. Ça se passe à Bridgewater. Et ensuite, quelques mois après, dans un autre endroit du Massachusetts, il y a un deuxième attentat beaucoup plus grave, car c'est dans une usine. Il y a le caissier de l'usine qui part accompagné d'un garde et qui quitte les bâtiments de l'administration pour aller vers le personnel pour le payer. Il passe par un grand terrain vague où il y a 2 hommes qui sont là. Et quand ils arrivent à la hauteur des 2 hommes, on leur tire dessus, on les tue, on prend l'argent et on disparaît. Et c'est là-dessus que, évidemment, nous allons avoir l'affaire Sacco et Vanzetti.
Alors, je vais simplement revenir sur un événement avant de passer à la deuxième partie, qui est le massacre de Ludlow. Et je vais lire ce que tu écris dans ton livre Sacco et Vanzetti. C'est assez bref et c'est dense. Un événement va mobiliser corps et âme les anarchistes italiens et réinsérer l'ensemble du mouvement dans les luttes de masse, la tuerie de Ludlow. Depuis une trentaine d'années, dans les mines de charbon du Colorado, se déroule une véritable guerre dont l'escalade entraîne les adversaires vers un point de non-retour. Les ouvriers réclament en vain des négociations à la Colorado Fuel and Iron Company, une société qui appartient au milliardaire Rockefeller. Après le rejet de leurs demandes et le meurtre d'un meneur par un détective au service des employeurs, ils tuent à leur tour, le 24 septembre 1913, un policier de la compagnie. Le lendemain, quelques 8000 mineurs sur les 10 000 de l'entreprise abandonnent les maisons que la compagnie leur loue et s'installent dans des tentes fournies par le syndicat. La grève, longue et très dure, est ponctuée de nombreuses escarmouches, de véritables batailles rangées. Les troupes fédérales interviennent. Le conflit atteint son paroxysme le 20 avril 1914. Une compagnie de militaires attaque le campement des grévistes désarmés, le trou noir de Ludlow. Au cours d'une horrible bataille qui ne dure pas moins de 15 heures, la milice patronale, armée de fusils et de mitraillettes, tue 5 hommes et un jeune garçon, met le feu aux tentes et pille tous les objets de valeur. 11 enfants et 2 mères meurent asphyxiés, des centaines d'autres personnes sont grièvement blessées. Le meneur grec est abattu avec 2 autres prisonniers. Le massacre de Ludlow va susciter une énorme révolte dans la population minière. Depuis la zone septentrionale du Nouveau-Mexique, des bandes armées de mineurs descendent pour venger le crime, attaquant une mine après l'autre, chassant ou tuant les gardes et mettant le feu au bâtiment. Cette véritable guerre de classe, l'une des plus apocalyptiques de l'histoire ouvrière américaine, totalisera 74 morts. Elle ne prendra fin qu'avec l'arrivée de nouvelles troupes fédérales. On voit bien donc le bouillonnement qui existe non seulement dans le mouvement ouvrier états-unien, mais le bouillonnement que, de manière générale, aussi l'immigration italienne et les anarchistes italiens ont pu impulser, même si là, pour le coup, ils interviennent plutôt après le massacre en soutien. Vraiment, on voit qu'on est dans une période d'agitation ouvrière aux États-Unis que les États-Unis n'ont peut-être même plus connue depuis l'époque. À part, il y a eu quand même des grandes grèves dans les années 30 et 40. Mais en tout cas, on va dire que c'est un peu l'âge d'or de l'anarchisme états-unien et des grèves. Puisqu'après, le mouvement... donc tu me diras si je me trompe, hein, mais il me semble que le mouvement ouvrier états-unien va être un peu moins marqué par les idées anarchistes après ça.
Oui, et donc c'est un peu à partir de là que bon, les anarchistes évidemment vont réagir beaucoup, qu'il y a même un attentat qui va être entrepris contre le bâtiment de la maison de Rockefeller à New York. Et il y a des photos qui montrent dans la presse, qui paraissent dans la presse, qui montrent Emma Goldman parlant à des foules de plusieurs milliers de personnes, ce qui montre que les gens comprennent parfaitement ces attentats, les approuvent complètement, parce que c'est vraiment une vengeance du mouvement ouvrier. Et alors on va voir le nombre d'attentats se multiplier de plus en plus, et on va l'attribuer évidemment aux anarchistes italiens, puisque Galeani préconise la propagande par le fait. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va y avoir donc encore des expulsions, qu'il y a donc ces années rouges, et qu'après les descentes de police dans les locaux syndicaux et autres, l'expulsion de la plupart des mineurs, eh bien, ils vont trouver, après une explosion, la détracte, qui vont les amener jusqu'à l'imprimeur supposé détracte, qui s'appelle Salcedo, qui va être arrêté avec un camarade, qui va être mis illégalement dans un local du FBI, et on va trouver son corps sur le 15e étage où il est tombé. Alors évidemment, la police va dire qu'il s'est suicidé, mais ça va créer quand même un grand questionnement, même dans la classe dirigeante américaine, sur l'illégalité. Les intellectuels commencent à se poser des questions quand même sur l'illégalité de la détention, etc., les moyens qui ont été mis en œuvre. Les juristes commencent aussi à se poser aussi des questions sur tout cela. Et donc, les anarchistes, évidemment, se disent « il faut faire très attention, nous risquons d'être expulsés ». Donc, ils font une réunion où se rencontrent Sacco et Vanzetti. Il faut dire que Sacco et Vanzetti ne se connaissaient pas avant tellement, et que d'autre part, il faut dire aussi, peut-être rappeler quand même, que pendant la guerre, pour éviter d'être pris pendant la guerre, par le service militaire, ils sont partis au Mexique. Ils sont partis au Mexique parce qu'ils pensaient, c'était pas seulement pour éviter la guerre, mais aussi parce qu'ils voyaient l'Italie en ébullition, ils pensaient que c'était mûr pour une révolution, et donc ils voulaient pouvoir partir en Italie ensuite, ou éventuellement, et ensuite soutenir la révolution de là-bas. Mais les conditions mexicaines étaient très très dures pour eux, et donc ils sont quand même revenus clandestinement aux États-Unis. Sacco avait quand même un emploi toujours dans la chaussure. Il s'entendait très bien avec son chef d'entreprise qui lui confiait les clés de l'usine parce que la nuit, il devait y aller pour régler un certain nombre d'appareils. Le chef lui avait donné d'ailleurs aussi un terrain où il cultivait des plantes et des plantes ménagères, etc. Enfin, des potagères, pardon. Et de temps en temps, Sacco lui apportait des légumes pour qu'il puisse les distribuer aux pauvres. Donc les relations qu'il avait étaient quand même tout à fait cordiales, malgré les idées que Sacco pouvait entretenir au point de vue anarchiste dans les rapports interpersonnels. Vanzetti, lui, qui avait mené des grèves et qui était particulièrement maintenant marqué rouge dans toutes les usines, ne pouvait plus trouver de travail et donc il vendait désormais, était vendeur de poissons. Et marchand de poissons, voilà. Ils ne se connaissaient pas, ils se sont connus un peu pendant le Mexique, et ensuite chacun était revenu donc à son endroit respectif, ils n'habitaient même pas dans la même ville. Et donc à cette réunion où ils se retrouvent, on décide de ramasser toutes les pièces compromettantes que tous les copains et les camarades peuvent avoir, revolvers et autres tracts, etc. Et Sacco et Vanzetti vont partir pour faire cela. Ils vont être filés par la police et ils vont être arrêtés. On va trouver sur Sacco un revolver, est-ce le sien ou pas? Il n'a jamais dit à qui il était. Et des tracts aussi. Bon, ils pensent qu'ils ont été arrêtés, qu'ils vont être simplement expulsés. Mais en réalité, l'affaire est beaucoup plus grave. Ils vont être jugés et menacés de peut-être beaucoup plus d'autres choses.
Oui, donc ça, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Voilà, donc on va faire une pause musicale avec, évidemment, Here's to You de John Bass.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.